Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue au Terrain Sportif, votre émission hebdomadaire sur les ondes universitaires au CSM 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Chers auditeurs, chers auditrices, également en rediffusion tous les lundis soirs, 20h, 21h30 sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke en Nestrie, l'une des plus belles régions du Québec et du Canada également. Et bien sûr, pour CSM, le terrain sportif, eh bien, c'est lundi soir pour la saison estivale. Lundi après-midi, pardon. Lundi matin, excusez, je suis complètement mélangeant ce matin. Là. Lundi matin, 10h30, midi, sur l'île de Montréal au 89,3 FM qui est captable pas mal un peu partout sur la rive sud. Là. Le 89,3 FM, ça capte pas mal loin et on aime ça ici à CSM et surtout on aime ça et on adore ça au terrain sportif. Cette semaine à l'émission, une émission différente puisqu'on a une bonne partie de l'émission qui va être prise par l'entrevue qu'on a réalisée avec un certain joueur québécois canadien qui a joué la plus grande partie de son soccer aux États-Unis, dans des universités en Californie, en Floride. Et là, il se retrouve du côté du Vermont avec le Vermont Green FC, qui est une équipe pas très loin d'ici. Le Vermont, la ville de Burlington, c'est à 1h30 d'ici environ, là, de l'île de Montréal, sans trafic bien entendu. On va parler à Nathan Siméon qui va nous parler de son expérience là-bas du côté du pays des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que ça signifie jouer là-bas? Quelles sont ses conditions? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il pense de la Copa América? Etc, etc, etc. Également, on va parler CF Montréal, puisqu'il y avait un match samedi soir dernier du côté du Stade Saputo contre les Vancouver Whitecaps, qui sont une équipe qui produisent un très beau jeu, les Whitecaps de Vancouver, avec leurs joueurs, leur capitaine Gold notamment, là, et Vité et White également, qui sont des très bons joueurs. Et quant au CF Montréal, ça va un peu mieux, on va parler de ça. On va parler brièvement de l'Alliance de Montréal. L'Alliance de Montréal, là, c'est difficile cette saison. On le répète à chaque semaine, le week-end du 9 au 11 août, je crois, il y aura le championnat canadien de la Ligue élite canadienne de basketball et l'Alliance sera qualifiée automatiquement en demi-finale. Mais honnêtement, si le championnat se jouait du côté de Hamilton, de Brampton, de la région de Vancouver ou peu importe où, Montréal ne serait jamais qualifié pour la finale parce qu'ils ont une des pires fiches de toute la Ligue dans le circuit canadien. Également, on va parler un peu de la Copa América, puisque demain, mardi, le 9 juillet, eh bien, il y aura une participation du Canada en demi-finale de la Copa América contre l'Argentine de Lionel Messi. Et ça va donner un bon petit spectacle, et j'espère de tout cœur que le Canada fera bonne figure. Et honnêtement, j'y crois. Et ce qui est particulier, c'est que Nathan Siméon également y croyait, puis on a fait quand même l'entrevue là, avant le dernier match contre le Chili du Canada. Et depuis, ben, le Chili, le Canada a battu le Venezuela au tir au but. D'ailleurs, ils auraient dû les battre en temps réglementaire, honnêtement. Et puis, ils ont également fait match nul avec le Chili 0-0 et ils auraient dû battre le Chili. Le Canada a eu des opportunités de marquer contre toutes les équipes. Des opportunités claires, le jeu est beau, pas énormément de buts encaissés. Et donc le Canada, là, avec un peu de confiance, cette finale-là n'est pas impossible. Je dis pas qu'ils sont favoris contre l'Argentine, loin de là, mais c'est pas impossible. qui se retrouve en finale contre la Colombie ou l'Uruguay, qui sera l'autre demi-finale de l'autre côté du tableau. Donc voilà pour nos amis du Canada. Puis cette Copa América, il faut le mentionner, il faut être honnête. Il faut dire les choses de façon claire et nette. Là. La Copa América, c'est une compétition avec des joueurs qui ont énormément de talent. C'est indéniable. Mais c'est une compétition dans laquelle il y a énormément de fautes, énormément de coups vicieux, énormément de pertes de temps, énormément de non-fair play. Hein, on l'a vu, là, le Brésil s'est fait ramasser contre toutes les équipes contre qui il a joué. Ils sont sortis au tir au but contre l'Uruguay. L'Uruguay qui a fait à peu près 30 fautes dans ce match-là. Et ce qui est étonnant, c'est que le Brésil a eu le premier carton jaune, si je ne m'abuse, du match. Vinicius, première faute du match, je crois, contre la Colombie. Carton jaune. Donc, j'ai l'impression qu'on a le carton pas mal plus facile avec le Brésil qu'on l'a contre, par exemple, pour l'Uruguay et l'Argentine. Qui sont des... surtout l'Uruguay, qui ont mis des coups comme ça ne se peut pas au Brésil. Le Brésil qui produit du beau jeu, c'est indéniable, qui est bon, qui ont manqué des opportunités également. Mais ils mangent des coups salauds à répétition, ça a été le cas contre l'Argentine également. Et souvent, ce sont eux qui se retrouvent avec les cartons rouges, le plus de cartons jaunes, etc. Pas dans ce cas-ci, là, parce que le match contre l'Uruguay, il y a un carton rouge direct pour un joueur de l'Uruguay. Et bien entendu, ils ne comprenaient pas pourquoi. C'est une compétition dans laquelle la Copa América... avec notre ami Rodrigo de Paul, numéro 7 de l'Argentine, le joueur qui doit avoir des documents secrets de certains arbitres peut-être ou de certaines confédérations. C'est le seul joueur qui peut aller parler à l'arbitre peut-être 15-20 fois par match sans avoir aucun carton jaune, sans être inquiété. C'est un joueur qui est détestable par son attitude. C'est un joueur qui triche. C'est un joueur qui insulte. C'est un joueur qui frappe. C'est un joueur qui argumente, c'est un joueur qui a une attitude dégueulasse et c'est un joueur qui est rarement averti par les arbitres avec des cartons jaunes pour déranger comme il le fait et pour argumenter après chaque décision qui va contre lui. Et c'est un joueur, bien entendu, qui, quand il reçoit une faute, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il reste dans la surface de réparation pendant un bon, une bonne minute par terre, là. Et... malgré ça, porte carton jaune. Et dans le premier match, d'ailleurs, Canada-Argentine, l'arbitre a engueulé comme du poisson pourri Ismaël Koné qui est allé parler à l'arbitre pour avoir des justifications. On l'a vu là sur les écrans. Les arbitres ne parlent jamais comme ça à Rodrigo de Paul et à certains de ses acolytes argentins, notamment de défenseurs qui donnent des coups vicieux match après match et qui sont rarement punis. Donc voilà, le Canada va devoir non seulement faire une performance incroyable, mais ils vont surtout devoir parler beaucoup moins que les Argentins aux arbitres, puisqu'ils n'ont pas ce privilège, puisqu'il y a des règles non écrites, on dirait, qui font en sorte que quand tu t'appelles le Canada ou quand tu es un petit pays, ou même quand tu t'appelles le Brésil, il y a certains pays, certains endroits, on dirait, c'est un peu plus facile de parler aux arbitres sans avoir de conséquences. Hein, on l'a bien vu. On dirait que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je vous le dis, encore une fois. Là, je ne dis pas que toute l'équipe d'Argentine est comme ça. C'est pas ça que je dis. Il y a des joueurs corrects dans cette équipe-là qui ont une bonne attitude sur le terrain. Il faut les trouver, mais il y en a. Mais quand on voit un Rodrigo de Paul qui parle 15 à 20 fois à l'arbitre par match après chaque décision et que les arbitres n'avertissent jamais le monsieur, c'est un peu louche. Hein? Puis aussi, il faut aussi dire la vérité, c'est la Copa América, donc c'est correct. Mais à la Coupe du Monde aussi, ça se passe souvent comme ça. L'équipe nationale canadienne, vous comprendrez que les langues officielles, c'est français ou anglais. La Copa América, c'est l'espagnol et le portugais. Mais c'est-à-dire que la très grande majorité des arbitres vont être espagnols, je veux dire hispanophones, vont parler la langue espagnole. Donc, le Canada est déjà désavantagé, puisque je ne sais pas si l'arbitre va communiquer aussi facilement avec les joueurs canadiens puisqu'ils ne parlent pas espagnol, alors que c'est plus facile avec des hispanophones. Puis vous me direz, c'est la Copa América. Le Canada est invité, 100% raison, il n'y a aucun problème. Mais quand on a un quart de finale France-Uruguay avec un arbitre argentin, moi je trouve ça un peu étrange. C'est un peu étrange. Hein? Pourquoi pas mettre un arbitre pour France-Uruguay, un arbitre africain, francophone, ou un arbitre belge ou quelque chose comme ça. Mais ça arrive souvent que les arbitres argentins ou de l'Uruguay sont très présents dans les tournois en fin de compétition. Notamment, on a même eu un arbitre argentin cette année à l'Euro. Est-ce qu'il était meilleur que les autres? Pas du tout. Est-ce qu'il était pire que les autres? Pas du tout. C'est un arbitre correct. Mais comment ça se fait qu'il y ait un arbitre argentin pour le tournoi qui s'appelle l'Euro? Alors que pour la Copa América, il n'y a pas d'arbitre africain, il n'y a pas d'arbitre européen, il n'y a pas d'arbitre asiatique. Alors là, pourquoi est-ce qu'à l'Euro, il y aurait un arbitre de la Comebol? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je veux juste que ça soit juste pour tout le monde. Ceci dit, l'Argentine et l'Uruguay ont quand même bien joué ce tournoi-là. On ne peut pas dire qu'ils ne méritent pas leur présence en demi-finale de la Copa América. Ils font du beau jeu, sauf pour l'Uruguay contre le Brésil, c'était tout simplement atroce. Voilà, c'est un peu un petit rant. On met la table pour Canada-Argentine, qui va être joué du côté des États-Unis, encore une fois, puisque la Copa América se passe du côté du pays de l'Uncle Sam. C'est mardi soir, c'est à 20h, coup d'envoi à 20h, et ça va se passer du côté de East Rutherford, ça c'est au New Jersey, donc c'est, je crois, le stade des Giants et des Jets, avec, bien entendu, un match contre l'Argentine. Défaite de 2-0 lors du premier match du Canada. Le Canada avait pas mal fait, il s'était créé des bonnes occasions, mais 2-0, c'est la défaite contre l'Argentine. Et l'autre seul match entre les deux équipes, eh bien, c'était en 2010 contre l'Argentine. Et la défaite, là, elle avait été de 5-0. Donc, en fait, le Canada, en match officiel, même en match amical, n'a jamais marqué un seul but contre l'Argentine. Donc voilà, puis en 2010, on n'a pas les marqueurs, là, mais c'était 5-0. Puis c'était l'arbitre Victor Hugo qui était là pour ce match-là. Et de l'autre côté, eh bien, ça va être Colombie-Uruguay. Et ça va être très intéressant parce que c'est deux équipes qui jouent bien. L'Uruguay, c'est une équipe qui frappe beaucoup, qui donne beaucoup de coups, qui commet beaucoup de fautes. On va voir contre la Colombie, qu'est-ce que ça va donner. La Colombie, ils ont un joueur qui s'appelle James Rodriguez, qui est tout simplement incroyable. Est-ce que ce joueur va être capable de faire la différence? Pour son pays, il est incroyable. Mais quand il joue pour ses clubs, il est un peu moins bon. C'est un joueur là, qui a signé au Real Madrid, James Rodriguez, le numéro 10 de la Colombie, le capitaine, mais qui malheureusement n'a pas pu connaître la carrière qu'il aurait dû connaître en club côté numéro 10 colombien. Il a brillé d'ailleurs en 2014 lors du 8e de finale contre l'Uruguay là, avec un but, une reprise de volée là, à l'extérieur de la surface de réparation. Et puis ça avait fait 1-0 pour la Colombie contre l'Uruguay. La finale va se jouer le 14 juillet et ça va être du côté de Miami. Encore une fois, Miami, c'est beau, c'est une très belle ville, il n'y a pas de problème. Au Hard Rock Stadium, c'est la ville de Lionel Messi. Donc, ils ont probablement mis la finale là-bas puisqu'ils se doutaient que peut-être il y aurait un certain Lionel Messi qui pourrait remporter la Copa América chez lui du côté de Miami. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, il y a d'autres joueurs que Messi. Puis surtout, il y a d'autres pays qui aimeraient peut-être avoir une certaine... avoir une certaine neutralité que de faire beaucoup les choses comme ça, là, de mettre la finale de la Copa América du côté de Miami. Puis entre vous et moi, que ça se passe à Miami ou que ça se passe du côté là, du Texas ou à Buffalo, n'importe où, les gens ils vont aller voir Messi de toute façon. Donc voilà. Meilleur buteur de la compétition à date pour la Copa América, Lautaro Martinez, l'Argentin, avec 4. Rondon, le Vénézuélien, avec 3. Et on a plusieurs joueurs avec 2 buts. Les meilleurs passeurs du championnat, eh bien, c'est James Rodriguez. Écoutez ça, là, 5 passes décisives. C'est le meilleur passeur de toute la compétition. Le deuxième qui a plus de passes, là, c'est 2. Donc, James Rodriguez, qui est déjà, pour moi, le joueur du tournoi. Côté Canada, on a Jacob Schaffelberg avec une passe, qui est un très bon joueur, honnêtement, qui joue bien, qui est beau à voir pour le Canadien. Pour le Canada, évidemment. Et en termes de buteurs côté Canadien, ben, Jonathan David en a un et Jacob Schaffelberg en a également un autre. Donc voilà, c'est la preview pour la Copa América. Ça se passe demain 20h et je crois que c'est diffusé sur les ondes de TSN et RDS. Donc manquez pas ça, coup d'envoi à 20h pour peut-être le match le plus important de l'histoire du soccer canadien, puisque oui, on a déjà fait une Coupe du Monde, oui, on s'est déjà qualifié, mais là, c'est une demi-finale contre l'Argentine, champion du monde. Donc, si on les bat, ça va en parler partout, ça va parler de ça, de Rouyn-Noranda jusqu'à Tokyo, en passant par Tombouctou jusqu'à Bagdad, en faisant le tour en Alaska jusqu'à Ushuaia en Argentine, et en revenant du côté de Melbourne en Australie pour terminer du côté de Ulaanbaatar en Mongolie. Donc, match très important. Demain soir, là, 20h pour le Canada contre l'Argentine. Sur ce, on s'en va en musique et on revient après ceci. Maintenant, on va parler de notre équipe professionnelle de basketball à Montréal. J'ai nommé l'Alliance de Montréal, puisque le dernier match d'Alliance, eh bien, ça s'est soldé par une victoire. Et ça, ça fait du bien, puisque la saison ne se passe pas très bien pour l'Alliance de Montréal. En fait, on est un peu dans le même same old, comme on dit en anglais. Les années passent et se ressemblent pour l'Alliance de Montréal. À l'heure actuelle, on est dernier au classement de toute la division Est et également de l'Ouest, donc de toute la Ligue. 14 matchs joués, 4 victoires, 10 défaites. Par contre, en termes de points, on est seulement à moins 18. Ça veut dire que dans beaucoup de matchs, on perd, mais d'une façon quand même serrée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est déjà qualifié pour les séries éliminatoires pour le week-end du National Championships au basketball canadien. Le dernier match en règle, eh bien, ça se passait vendredi dernier à l'Ostérum de Verdun devant une foule de 2666 spectateurs. Contre les Sea Bears de Winnipeg. L'équipe de Winnipeg, d'ailleurs, des Sea Bears, qui joue dans le même amphithéâtre que celui des Jets de Winnipeg. Et donc, c'est eux qui ont le record de la Ligue depuis son existence avec la plus grande foule à un match de CEBL. Et dans ce match-là, pour l'Alliance de Montréal, eh bien, les joueurs ont répondu présents. 18 points pour Chris Smith, 31 points pour Ahmed Hill, ce qui est une très bonne soirée pour le numéro 6 de l'Alliance. Guillaume Payen-Boucard, 15 et 6 pour Jordan Bowen. Donc, ça fait un total de 80 pour Montréal et 73 pour nos amis de Winnipeg, les Sea Bears. Et quand on regarde Winnipeg, eh bien, dans les performances, on peut compter 11 points pour Scotty Lindsay, 16 points pour Justin Wright Foreman. Et on a 15 points pour Emmanuel Akot et 13 pour Mason Boursier. Maintenant, le prochain match de l'Alliance de Montréal, ça va se passer du côté de Niagara contre les River Lions. C'est jeudi le 11 juillet, là, donc dans quelques jours à 19h. Et le prochain match à domicile, eh bien, c'est le 14 juillet. Donc, c'est dimanche qui s'en vient contre les Ottawa Blackjacks, qui est également une équipe qui n'est pas très bonne au classement, là, puisque dans l'Est, ils sont juste devant nous avec un petit match. Même nombre de défaites, 9 défaites et 4 victoires, donc même nombre de victoires. Donc si on les bat, on pourrait quand même passer devant. Classement dans l'Est, qu'est-ce que ça donne? Niagara River Lions, 14 matchs joués, 9 victoires, 5 défaites. Scarborough Shooting Stars, 7 victoires, 6 défaites. Brampton Honey Badgers, 6 et 9. Ottawa Blackjacks, 4 et 9. Montréal, l'Alliance de Montréal, 4 victoires, 10 défaites. Et dans l'Ouest, eh bien, Edmonton, 11 et 4. Vancouver, 10 victoires, 4 défaites. Winnipeg, Sea Bears, 7 victoires, 6 défaites. Calgary Surge, 6 victoires, 7 défaites. Et Saskatchewan Rattlers, 5 victoires et 9 défaites pour nos amis de la Saskatchewan. Donc, c'est quand même la conférence de l'Ouest est quand même plus relevée que celle de l'Est. Là, on ne va pas se le cacher. Voilà, c'était la petite capsule de l'Alliance de Montréal cette semaine à l'émission. Puisqu'on y sera, on sera de retour dimanche prochain, eh bien, on pourra vous donner des clips audio, des entrevues d'après-match avec l'entraîneur-chef, j'ai nommé Derek Alston Senior, ainsi que peut-être de certains joueurs, dont Ahmed Hill, qui vient souvent en conférence de presse. Sur ce, on s'en va en musique, et après ça, on va revenir avec l'entrevue avec l'invité de la semaine, Nathan Siméon. Et juste avant ce petit segment de l'Alliance, eh bien, c'était Myland, Grand Eugène et Étirer la fin, qui sont deux nouveautés francophones que vous avez écoutées ici sur les ondes de CSM et de CFAQ. De retour sur les zones de CSM et de CFAQ à l'émission Le Terrain Sportif avec votre animateur, nul autre que moi-même au micro, Wissam Bensta. Donc on vient d'y aller avec nos 5 nouveautés francophones de la semaine. On a eu Poupée Russe de Corail et Vanille. On a eu également là-dedans du Charlotte Brousseau au bout de ma rue. La rivière de Projet Jacob. On a beaucoup, évidemment, de chansons chaque semaine là, pour vous. On les choisit dans le palmarès CSM. Messi de Zouz et également Les Pieds chez toi de Les Breastfeeders. Donc, voici les 5 chansons de nouveautés francophones. Puis après ça, il nous reste une petite chanson avec du Xella Edna et Emma Beko. Donc, sur ce, on y va directement avec l'invité de la semaine. J'ai nommé Monsieur Nathan Siméon, joueur du Vermont Green FC aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous sommes avec Nathan Siméon, défenseur du Vermont Green FC. Comment ça va aujourd'hui, Nathan?
Ça va bien, excité d'être ici.
Excellent, excellent. Donc, on est content de t'avoir aussi. C'est rare qu'on a des joueurs qui pratiquent leur sport aux États-Unis. C'est ce que tu fais, hein? C'est pas très loin d'ici, mais c'est quand même aux États-Unis, dans l'État du Vermont. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je demande toujours les mêmes questions à mes invités. Tu viens d'où? Tu as été à quelle école au secondaire et tu habites où actuellement?
Alors, je me présente Nathan Siméon. So, comme on l'a dit, je suis défenseur pour Vermont Green. Je suis originaire de Montréal. So, je suis né à Montréal. J'ai été à l'école Regina Assunta pour mon secondaire, qui est pas loin dans la région de Montréal. Puis présentement, j'habite à Laval, mais évidemment, avec le soccer universitaire puis Vermont Green, présentement, je réside aux États-Unis, au Vermont.
OK, excellent. Donc là, en ce moment, tu es basé pour l'été au Vermont.
Exact.
Cool, cool. Puis, Regina Assunta, ça, c'est ce que c'était une école privée, publique?
C'était une école privée.
Privée, c'est ça. OK. C'est francophone ou anglophone?
Francophone à la base, mais avec une légère inclination vers les anglophones.
OK.
Aussi.
OK, excellent. C'est ça que je pensais que c'était Regina Assunta. Puis c'est dans quel coin de l'île?
Pas loin de Papineau. C'est vraiment juste après Papineau, si tu prends le pont, pas loin de Rue Sauvé, Soriole, dans ces environs-là. C'est pas loin de, disons, l'environnement de Saint-Laurent.
OK. Parfait. OK, puis maintenant, parlons un peu de ta jeunesse comme athlète. Donc, j'imagine que si tu joues aujourd'hui dans un niveau quand même important aux États-Unis, tu as dû être athlète plus jeune. Par où est-ce que ça a débuté, ta passion pour le soccer, pour toi?
Vraiment, plus loin que je peux me rappeler, vraiment, que ce soit quand j'avais 3-4 ans, mon père a été un joueur de soccer, mon frère aussi. Ma mère a toujours eu une certaine passion et inclinaison pour le soccer. So, dans la famille au complet, le soccer, c'était pas mal ce qu'on regardait à la télé. Puis juste grandir avec le sport en tant que tel, c'est devenu une passion comme rapidement. Juste vers 5, 6, 7, 8, plus tu avances dans les années, plus tu es comme « Ah, j'aime le sport, j'aime ça regarder le sport, j'aime ça jouer le sport, je peux m'exprimer ». Puis dans le fond, ça fait juste évoluer jusqu'à temps que ça devienne ta passion, puis ça commence à prendre un peu le contrôle un peu de ta vie en tant que tel.
OK, excellent. Puis tu disais que tu regardais les matchs, j'imagine. Est-ce que tu as des origines d'un autre pays également?
J'ai des origines haïtiennes à la base, de mes deux parents.
OK. Puis est-ce que les matchs de l'équipe, par exemple, quand l'équipe nationale d'Haïti jouait, est-ce que vous étiez tous, vous faisiez des gatherings, puis vous regardiez ça ou...
Oh oui. J'ai regardé plusieurs matchs, que ce soit des matchs, je me rappelle, deux matchs en particulier. Quand j'étais plus jeune, j'ai regardé un match d'exhibition, c'était l'équipe d'Haïti qui jouait au Stade Saputo.
Oui.
Je me rappelle être allé avec mes parents avec une ambiance de fou. C'était plein à craquer, t'entendais des bruits, tambours partout. Mm-hmm. Puis vraiment, l'autre match, puis ça c'est mon moment... Un peu de fierté, c'est un match. J'étais déjà aux États-Unis dans le temps, mais c'était durant la Gold Cup 2019-2018, si je ne me trompe pas, avec l'Haïti qui jouait contre le Canada.
Oui.
Puis juste assis là, regarder, avoir peut-être originaire puis citoyen canadien, mais en même temps avoir des origines pour l'Haïti, juste avoir les deux représentations de moi en tant que personne s'affronter, c'était un moment assez spécial pour moi.
Ah oui, c'est très important parce qu'il y a les origines et les racines qui mergent ensemble pour le football. C'est beau à entendre. Est-ce que c'était un match où est-ce que tu étais sur place?
J'étais pas sur place pour ce match-là. Le premier, j'étais allé au stade, mais pour le match d'Haïti contre Canada, c'est un match que j'ai pu regarder à la télévision dans le temps, j'étais encore en Floride.
OK, excellent. Puis en Haïti, je sais, là, parce que j'ai parlé de ça avec beaucoup de personnes, si je ne me trompe pas, là-bas, tout le monde est fan évidemment de l'équipe nationale haïtienne, mais quand Brésil-Argentine joue, il y en a que c'est Brésil, puis il y en a que c'est Argentine. Est-ce que c'est exact?
C'est pas mal une très bonne représentation de ce qui arrive dans ces matchs-là. Surtout, moi, j'ai grandi surtout avec Brésil étant le un peu plus dominant des deux. Mais c'est sûr que la population haïtienne, que ce soit pour le soccer en général, la passion, elle atteint aussi les pays latins une fois de temps en temps. Parce que quand le Brésil gagne, l'Haïti gagne, l'Argentine gagne, l'Haïti gagne, même si que n'est pas nécessairement lié, mais juste question de passion puis de support. C'est quelque
Oui.
chose qui arrive très souvent.
Oui, non, c'est bon, c'est intéressant à savoir. Le foot, ça nous fait voyager puis découvrir certaines choses. Et maintenant, concernant ton parcours de jeune athlète, on a parlé, bon, que tu as joué plus jeune. C'est quoi nécessairement les clubs avec lesquels tu as pu te développer de ton plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, en gros, pour faire juste un gros parcours?
Dans le fond, mon parcours un peu moins typique des Montréalais, surtout de Danny en général, qui a été passé par l'Académie de l'Impact. J'ai passé la plupart de ma jeunesse, surtout de mon développement dans les clubs, soit que ce soit AA, AAA. J'ai fait un peu le tour, Chomedey, Fabrose. J'ai fini avec Saint-Laurent environ de 15 à 18 ans, où ce que là, après ça, j'ai été directement aux États-Unis via un showcase où ce que j'ai pu m'exposer puis m'exprimer un peu, puis ça m'a donné des opportunités à l'étranger. Puis de là, c'est là que le développement a pris un peu une tournure vers les États-Unis où ce que je me suis rendu à Orlando en premier. J'ai joué avec l'académie pendant un an, séparé moitié-moitié entre l'académie puis la deuxième équipe. Puis ensuite, j'ai été poursuivre mes études à l'Université de San Francisco pendant mes 4 ans. Puis là, présentement, avec l'année de COVID universitaire qu'on reçoit en tant que joueur, j'ai pu avoir une dernière chance avec l'Université de Vermont ici, où ce que je peux faire ma 5e année dans le fond.
OK. Excellent. Donc, c'est ça, on voit justement sur ta page là que tu as joué avec les San Francisco Dons et puis Orlando City B, puis aujourd'hui le Vermont Green FC.
Exact.
Exact. Puis si on ferait un ordre, mettons là, on les classerait de l'équipe la plus forte par la ligue dans laquelle elle joue à l'équipe la plus faible, ce serait laquelle l'équipe avec le plus haut niveau? Est-ce que c'est le Orlando City B?
En général, en tant que technicalement parlant, Orlando City B serait classée comme la plus haute, évidemment étant l'équipe réserve de Orlando City dans le temps dans la MLS. Ensuite, ça irait probablement, dépendamment de comment, à qui tu parles, puis comment tu reçois les informations entre l'université puis le USL 2, ça dépend toujours de quel œil tu regardes. Soit dans le fond, comment la USL 2 fonctionne, c'est plus amateur, mais en général, c'est une amalgamation de différents joueurs universitaires dans les environs. Soit tu te retrouves avec l'équipe de Vermont Green, par exemple, qui se retrouve avec 4 joueurs de notre université, sur l'université de Vermont, 5 joueurs qui sont de Syracuse, qui est une autre université, qui sont dans le top 15 des meilleures écoles.
Oui.
Puis tu te retrouves avec, dans le fond, plusieurs différents types de joueurs, plusieurs différents clubs qui forment une genre d'équipe pour l'été, qui des fois se développe avec plus, comme le Vermont Green a réussi à participer dans la Open Cup cette année, ce qui était un très gros moment pour l'État au complet même. J'ai eu
Oui.
la chance de voir des estrades. J'ai pas eu la chance de participer, mais c'est juste beau. C'est beau voir les avancées de surtout cette équipe-là qui est partie de très bas pour monter puis aspirer.
Oui. Non, c'est ça. Puis tu en parles, l'US Open Cup, je crois que c'était contre une équipe la Caroline ou la Virginie, si je me trompe pas. Est-ce que c'était ça le premier match que vous avez gagné?
Lexington, ouais.
Lexington, c'est ça. J'étais allé là-bas avec un ami, on vous avait vu jouer, je pense. Vous aviez pris les devants, vous avez marqué les deux premiers buts.
Exact. On a marqué sur coup de pied arrêté, puis un corner, si je me trompe pas, le premier.
Oui.
Puis
Puis
vraiment, juste l'atmosphère c'était incroyable.
ben, c'est sûr, hein, parce qu'au Vermont, c'est pas non plus Manhattan. Donc, les gens, ils n'ont pas 40 millions d'équipes de sport. Donc, l'été, vous êtes en fait l'heure canadienne de Montréal. Un peu.
Un peu, dans le fond, ouais.
Ils ont aussi le Vermont Lake Monsters, le baseball, qui est l'autre équipe aussi.
Oui.
Puis, toi, tu n'as pas joué ce match-là, ce premier match de la US Open Cup?
Non, je n'ai pas. J'étais, dans le fond, j'étais enregistré pour pouvoir, si jamais était nécessaire, mais c'était durant la saison qui serait entre parenthèses de printemps pour l'université. J'ai eu une petite blessure durant la semaine de préparation, ce qui a fait que ma participation a été très limitée pour les pratiques. Alors j'ai opté de rester puis de regarder des estrades pour ces matchs-là, mais
OK.
j'aurais aimé jouer, c'est sûr, dans un
OK.
match important. J'aurais aimé ça, pouvoir avoir plus d'impact dans l'équipe surtout.
Ouais, non, c'est sûr, surtout pour une occasion comme toute particulière comme celle-là. Puis là, vous êtes dans la Northeast Division. C'est une division, là, c'est la USL League 2. Donc, si je ne me trompe pas, il y a la MLS. Ensuite, c'est la USL Championship.
Ouais, ça a divisé un peu différemment récemment suite à la séparation de la USL avec la MLS. Sur un bord, tu retrouverais la MLS avec la MLS Next, qui serait où les deuxièmes équipes en général participeraient puis joueraient. Puis après ça, de l'autre bord du spectre, t'as la USL Championship, USL 1, USL 2. Puis après ça, tu as quelques autres ligues qui sont encore plus amateurs en bas en dessous. Mais dans le fond, c'est juste une petite récente séparation, disons, entre la MLS puis la USL en tant que telle, en tant qu'organisation.
OK, tout à fait. Puis, c'est une ligue fermée, hein, dans le sens que c'est pas comme en Europe où est-ce que il y a une promotion et une relégation. Vermont Green va
Exact.
toujours être dans cette ligue-là.
Correct. So, ils vont toujours être dans la ligue, peu importe où ils finissent dans le classement, gagner ou perdre. Mais dépendamment, tu peux demander d'être placé plus haut. Évidemment, ça vient avec des restrictions, tant que ça prend un certain nombre de supports, le profil, les joueurs, le profil du club, etc. Il faut faire une demande à la ligue, bien sûr. Mais en tant que niveau, il n'y a pas de relégation ou de promotion nécessairement.
Oui, c'est ça. Puis, parlant de ce que tu viens de mentionner, est-ce que tu penses que toi, le Vermont Green FC, qui joue au Virtue Field avec 2600 spectateurs, aurait peut-être, éventuellement, avec beaucoup de si, la possibilité d'aller en US League One, ou tu penses que la US League Two, pour l'instant, ça convient parfaitement à votre club?
Non, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu aspires toujours à jouer au plus haut niveau. C'est dur pour moi de dire que Vermont Green nécessairement resterait dans la USL League 2. Les fans, avoir 2 500 spectateurs pour un match de USL League 2, même à travers la ligue en tant que telle, c'est très rare déjà à la base. Juste de ce point-là, on voit déjà que le Vermont Green a une coche au-dessus de certaines équipes. Nécessairement au niveau du support, au niveau de la qualité des joueurs, au niveau de l'implication. Et donc, pour moi, je dirais que avec beaucoup de si certaines étoiles s'alignent, bien sûr, je crois que le Vermont Green serait une équipe qui serait dans des discussions pour éventuellement faire le saut pour des ligues supérieures. Mais évidemment, ça, c'est des questions de futur que je ne peux pas vraiment répondre personnellement.
Ah, ben, tu as donné une très bonne réponse. C'était très intéressant ce que tu viens de dire là. C'était très bien expliqué. Maintenant, vous êtes deuxième au classement, selon ce que je vois ici là, sur sofascore.com, qui est mon site de référence. Vous êtes derrière les Seacoast United Phantoms. Vous avez une fiche de 10 matchs joués, 23 points et surtout un différentiel de plus 18. Si je ne m'abuse, les deux premières places vous donne accès aux séries éliminatoires. Est-ce que c'est
Exact.
exact?
Exact. Avec une chance pour la troisième place qui serait en concurrence avec la troisième place dans une autre conférence qui serait proche de du Northeast. Donc, dans le fond, entre ces deux conférences-là, le meilleur troisième serait aussi invité à participer pour les séries.
Et comment fonctionne le système de playoff avec votre ligue 2 en fait? Est-ce qu'il y a la Northeast, mais il y a aussi il y a l'Est, il y a l'Ouest, puis dans chaque division, il y a
Exact.
beaucoup de sous-divisions. Donc comment pour être
Ouais,
champion, c'est comment ça fonctionne?
c'est un peu divisé, c'est un peu divisé comme ça. Ça ressemble un peu au, similaire au, à comment le hockey fonctionne, où ce que tu as les quatre sections qui sont en concurrence contre. Puis évidemment, tu passes à travers ta propre conférence où tu essayes, tu vas dans les séries, être champion de ta conférence. Avec ça, tu t'en vas affronter les champions des autres conférences, puis tu finis par éventuellement être le champion ultime de la ligue au complet. Mais c'est vraiment de petit à gros. Soit tu vas dans ta conférence, tu essaies de finir top 2, top 3, tu vas dans les séries, tu affrontes les conférences d'à côté, top 2, tu gagnes, tu passes au premier, premier s'en va dans les matchs contre les premiers des autres conférences, puis ensuite ça devient un genre de semi-finale, finale entre ces quatre équipes-là qui devient, qui éventuellement finit par avoir le champion de USL 2.
Oui, c'est ça que je viens de constater également. Puis vous, une fois que, est-ce que c'est votre objectif d'être champion de quelque chose cette année? Est-ce que vous trouvez ça réaliste de peut-être aller pour le championnat de la USL League 2?
Non, c'est sûr. Je trouve que c'est définitivement atteignable pour notre équipe. J'ai eu la chance de participer dans deux équipes de USL 2. J'étais à San Francisco dans le passé, où ce que les San Francisco Glens, même, on a été deux fois dans les séries. J'ai eu la chance de vivre un peu l'expérience, voir le niveau. Puis vraiment, avec l'équipe de San Francisco, je pensais avoir une chance. Puis l'équipe de Vermont, c'est la même, je dirais. Que les joueurs qu'on a, l'entourage qu'on a, le support des fans encore plus. Je crois que il y a vraiment quelque chose à faire avec cette équipe-là cette année. On a de très bons joueurs qui sont en forme présentement, qui sont vraiment haut placés, des statistiques aussi, même que tu viens de, que vous avez bien récité aussi. Je crois que l'équipe vraiment, elle peut, on peut pousser pour gagner le championnat au complet.
Ben écoute, on vous le souhaite, hein, c'est ça qu'on espère. En plus, avec il y a quelques joueurs québécois qui jouent là-bas dans cette équipe-là. Et puis, c'est pas loin de chez nous. Pour ceux qui veulent faire un petit road trip au Vermont, c'est à 1 h 30 à peu près de Montréal, là. C'est pas
Une heure et
loin.
demie, 2 heures, ça se fait bien, ça se fait
Une
bien.
heure et demie. Si c'était à Plattsburgh, ça serait moins loin parce que Plattsburgh, c'est plus près. Mais bon, Burlington, c'est plus beau aussi. Fait que on va prendre ça. Parlant de Burlington, tu as vécu donc à Orlando, à San Francisco, à Burlington. Comment est-ce que tu trouves cet endroit-là, cette ville, cet état, les gens, le climat, tout en fait? Comment est-ce que tu t'adaptes dans ce coin de pays?
Non, c'est sûr, c'est très différent de vivre à Burlington. Passer de Montréal à Floride, c'était moins un choc, vu que c'est deux villes qui sont généralement deux endroits qui sont plutôt populés. Puis tu passes à San Francisco, qui est un attrait touristique majeur aux États-Unis. Puis vraiment, juste arriver au Vermont, c'est un changement, avoir un peu plus d'espace, avoir un peu plus. Un peu moins de personnes qui sont un peu groupées partout, puis avoir une ambiance plus locale, plus voisin. Tu apprends à connaître plus les gens qui t'entourent, les gens qui te surrondent. C'est moins, t'as moins, t'es moins étouffé nécessairement. Puis juste ça donne une atmosphère beaucoup plus proche, beaucoup plus familiale que j'ai personnellement, que j'apprécie beaucoup.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas là, le Vermont. Généralement, ça a une bonne réputation. Puis toi, là-bas, est-ce que tu vis dans une avec d'autres joueurs? Est-ce que tu as ton appartement? Comme c'est juste pour l'été, comment ça fonctionne par rapport à cet aspect-là?
Ça dépend des personnes. Vu que je vais à l'université ici, présentement, j'habite avec certains autres étudiants, athlètes de l'université en tant que tel. Mais il y a beaucoup de nos joueurs qui sont présentement ensemble, qui vivent ensemble dans un hôtel où ce que ils passent la majorité du temps ensemble. Ça aide aussi avec la chimie d'équipe, puis juste avoir d'autres joueurs, d'autres personnes qui ont le même but, puis le même objectif à longueur de journée alentour de toi.
Oui, non, c'est ça, c'est très intéressant. Puis, Quelles sont tes conditions de joueur là-bas? Évidemment, je ne veux pas savoir votre salaire en tant que joueur, là,
Ouais.
mais est-ce que c'est des conditions qui font en sorte que tu peux vivre pour l'été de ça ou quand même tu dois avoir un autre travail à côté?
Non, c'est ça, c'est surtout ici, c'est des conditions qui sont très, 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 très agréables et tu n'as pas besoin, en général, tu n'as pas besoin de nécessairement beaucoup, beaucoup en tant que personne pour pouvoir vivre pendant un été à quelque part, mais être logé, nourri, le transport. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Puis je crois que Vermont Green a fait un excellent effort pour vraiment s'assurer que tous les joueurs ont ce qu'ils ont besoin, ce qui est nécessaire. Chaque joueur est différent, c'est sûr, mais à la base, que ce soit pour des questions de conditions de vie, puis conditions de travail, pour pouvoir venir aux pratiques à chaque jour, puis performer, je crois que Vermont Green a fait un excellent effort pour s'assurer que tout le monde est content puis satisfait.
Oui, tout à fait. Puis vous entraînez combien de fois par semaine?
En général, on s'entraîne pas mal à chaque jour, des congés après les matchs, bien sûr, mais en général, on essaie d'aller sur le terrain plus ou moins à chaque jour, ne serait-ce que même si c'est pour questions techniques ou questions de cardio, puis mise en forme physique, juste être là à chaque jour, je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, puis avec la profondeur de notre staff pour les questions de coach, entraîneur physique, préparateur physiothérapeute, tout ça. Je crois que avoir chaque jour l'opportunité d'aller sur le terrain, je crois que c'est quelque chose qui a vraiment poussé l'équipe à performer cette année.
Oui, non, tout à fait, c'est sûr. Puis, on parlait de ça tout à l'heure. Tu as dit que tu avais des entraînements tous les jours. Si c'est pas trop indiscret, j'imagine que tu es un peu rémunéré pour faire ça.
Ça, c'est évidemment, ce serait quelque chose qui serait très difficile à mentionner, bien sûr.
Oui.
Je crois que personnellement, moi, je ne peux pas parler pour d'autres joueurs. En question de rémunération, je crois que moi, personnellement, je reçois rien de Vermont. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait entièrement, que je fais entièrement pour m'améliorer, entièrement pour performer,
OK.
visibilité. Bien sûr, je peux pas vraiment parler pour d'autres personnes. Je ne peux pas vraiment parler de l'état de la situation de l'équipe, mais question personnelle, moi, je toucherai pas un salaire pour
OK.
jouer ici.
OK, non, c'est ça, OK, je comprends. Donc, en fait, c'est ça, c'est plus le trip, en fait, poursuivre sa passion
Exact.
gratuitement, loger, nourri, déplacement. Hôtel, est-ce qu'il y en a ou c'est généralement vous revenez la même journée?
En général, on revient la même journée.
Et la même
C'est
journée.
vraiment, tu vas, tu joues, tu performes, puis après ça, tu as la chance de rentrer chez toi le soir.
OK, tout à fait. Puis, quels sont tes objectifs personnels à toi pour la suite? Donc, tu l'as dit, tu as fait du soccer à l'université, NCAA, si je ne m'abuse, tu as fait également les équipes réserves, la USL League 2. Tu as étudié également, j'imagine que peut-être tu vas avoir un diplôme ou pas. Quels sont tes objectifs pour la suite en tant que joueur de soccer et ou être humain dans le monde du marché du travail, en fait?
Non, c'est sûr, c'est une question que à chaque jour je me lève avec la motivation de m'améliorer, mais c'est sûr que question à court terme, je crois que je suis vraiment concentré présentement sur faire les séries puis gagner avec Vermont Green. C'est sûr qu'après ça, je vais devoir retourner à l'université avec le Vermont, puis je vais essayer de faire un peu la même chose, puis reproduire la même magie, question d'équipe, puis être capable de gagner un championnat national avec l'université aussi. Puis juste après ça, c'est une question, le soccer, c'est une question d'être opportuniste puis d'être présent au bon moment. C'est juste essayer de rester prêt pour des opportunités qui pourraient s'ouvrir à la suite après que l'école se termine.
OK, tout à fait. Donc, on y va par phase, en fait. Et puis là, maintenant, bon, on va terminer un peu là-dessus sur le Vermont, puis le soccer que tu pratiques au quotidien. Petite question sur l'équipe nationale d'Haïti pour voir si tu es à jour. Est-ce que ça tente de faire un petit quiz?
Ouf. Faudrait me donner le moment d'étudier un peu. C'est sûr que l'équipe nationale haïtienne a eu quelques changements récemment, surtout avec sur des joueurs qui sont appelés. Sur, j'essaie du mieux que je peux de rester dans les parages puis de recevoir des nouvelles. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement très facile toujours de rester dans les mises à jour dans ce
Oui.
genre de sport-là qui arrive un peu une fois ou chaque 4 ans, dans le fond.
Non, je comprends tout à fait. Est-ce que tu sais qui est le joueur haïtien avec le plus d'apparitions?
Plus d'apparitions.
Le plus de matchs joués avec la sélection nationale d'Haïti?
J'irai pas mettre beaucoup de paris, mais je placerai mon choix avec le capitaine et le gardien Johnny Placide.
Johnny Placide, c'est le sixième avec
Ouf.
65 matchs joués.
Sixième.
Le premier, c'était l'ancien joueur de Joe Public et Don Bosco, Pierre-Richard Bruny.
Bruni.
C'est pas le plus connu.
Non, pas nécessairement, mais sûr
Ouais.
que après aujourd'hui, j'irai probablement regarder quelques vidéos, voir un peu.
Puis, quels sont les deux joueurs à avoir marqué le plus de buts dans l'histoire de la sélection haïtienne avec 65 et 57? Un est toujours en activité. Quand même connu. Pas mondialement, mais c'est
Premier
un nom.
choix serait probablement Dukens Nazon.
Oui, c'est le numéro 2 avec 57.
Numéro 2, excellent.
Est-ce que tu sais, il joue où?
Il a bougé récemment en plus. Attends, je sais que c'est en Europe, si je ne me trompe pas, dans... Est-ce qu'il y a un indice?
Ben, c'est un pays où est-ce qu'on mange très bien. C'est un pays qui est sur deux continents. C'est un pays où est-ce qu'on mange des kebabs. C'est très populaire là-bas. Un pays qui participe à l'euro, qui a battu la République tchèque.
Ah, oui, attends. Ça, je l'ai en plus.
Un
Voyons.
pays qui a des grosses mosquées.
Voyons, voyons, voyons.
Commence par un T. TU.
Turquie?
Turquie, bingo.
Voilà, voilà, voilà.
Joaquin, là, je te mets sur le spot parce que je ne
Wow.
t'avais pas prévenu,
Wow,
là.
ouais. Ça.
Kayseri Sport.
J'avais Turquie dans ma tête, puis j'arrivais pas à le sortir. Parce que j'avais reçu une nouvelle en plus récemment de son déplacement.
Oui, c'est ça. Il jouait avant en Bulgarie.
Exact.
C'est pas les meilleurs championnats, mais bon, ça reste que c'est ça. Et le premier, c'est Emmanuel Sanon.
Manuel Sanon.
Moi,
Le
lui, il est mort en 2008, âgé de 56 ans. Donc, c'est
nom
quelqu'un que.
me dit quelque chose.
Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a terminé? Puis, pour conclure, est-ce que tu as eu l'occasion de voir les matchs un peu de l'équipe nationale du Canada à la Copa América à date?
Ouais, j'ai eu la chance de regarder les deux premiers affrontements, que ce soit plus ou moins contre le Pérou qu'ils ont réussi à gagner une première victoire pour le Canada, qui est un moment très 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 spécial pour l'équipe. J'ai quelques amis dans l'équipe même présentement,
Ah oui.
puis c'est un moment très très spécial pour eux aussi de pouvoir compétitionner, puis vraiment de montrer la place du Canada dans ne serait-ce que dans le monde international aussi.
Oui, non, c'est sûr, ça fait plaisir à voir parce qu'on sait qu'ici, le hockey prend beaucoup de place, mais battre l'équipe, même si le Pérou, c'est pas la meilleure des équipes. Ça reste que c'est quand même un pays qui est là chaque année en Copa América, puis c'est un pays de foot. Puis c'est pas
Exact.
facile de les battre parce qu'ils jouent avec toutes leurs armes, mais le Canada a beaucoup de talent.
Exact. Ce qui est vraiment vraiment excitant pour les Canadiens en général, puis surtout les jeunes joueurs, de vraiment voir l'éclosion au niveau de talent. Comme c'est sûr que le Canada a toujours eu le talent, mais juste de pouvoir monter une équipe et représenter le talent qui se cache dans le pays, c'est vraiment quelque chose de spécial.
100% d'accord avec toi, Nathan. Et pour conclure, Petite question comme ça. Quel a été le meilleur joueur avec qui tu as joué? Le meilleur joueur avec qui tu as joué depuis que tu joues?
Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. J'aurais pas le choix d'y aller avec le nouveau venu de l'équipe canadienne en Moïse Bombito,
Oui.
qui a eu toute une éclosion suite à son arrivée aux États-Unis. Puis vraiment, j'ai eu la chance de grandir avec lui. So, dans le fond, j'ai eu la chance de jouer avec Saint-Laurent. Avec lui, malheureusement, j'ai pas eu le temps de me rendre au Vermont avant qu'il s'en aille dans la MLS. J'ai pas eu la chance de pouvoir jouer contre lui nécessairement au collège, mais d'avoir grandi avec lui puis de le voir représenter même l'équipe Canada, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis juste de pouvoir le connaître aussi, ça rend encore plus spécial le moment.
Oui, puis est-ce qu'il y avait quelque chose en lui, peut-être son éthique de travail, sa personnalité, qui a fait en sorte que tu penses qu'il a pu percer au plus haut niveau possible pour un joueur canadien, c'est-à-dire l'équipe nationale?
Je crois que sa plus grande qualité nécessairement, c'était surtout, c'est sûr, son éthique de travail en tant que professionnel, ça doit être au plus haut niveau, mais surtout son désir de toujours progresser. Partir, personnellement, je peux m'exprimer là-dessus, mais partir de chez soi pour aller jouer dans un autre pays, c'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire. Puis dans le cas de Moïse, d'avoir passé, partir un peu plus vieux, faire un an dans un junior college avant de se rendre au New Hampshire pour y jouer. Puis après ça, passer dans la MLS, c'est un parcours qui requiert beaucoup de discipline puis beaucoup de persévérance. Puis c'est vraiment, je crois que c'est ça, la touche au-delà de ses qualités athlétiques et techniques. Je crois que c'est ça l'élément qui l'a poussé un peu plus loin.
Parfait. Ben écoute, merci beaucoup de nous éclairer. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. C'est pas le joueur le plus connu de l'équipe canadienne, mais on en a entendu parler récemment, puis il a fait une bonne job. Certains sont fâchés avec lui. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, là,
Ouais,
le...
c'est sûr, c'est pas nécessairement ce que tu veux voir, ce que tu veux entendre pour un jeune qui est encore en train d'apprendre, qui est encore en train de progresser, surtout qui apprend à être un professionnel. C'est pas quelque chose que tu veux nécessairement recevoir ou
Ouais.
participer, mais je le connais, je sais qu'il y a une bonne tête sur les épaules, il y a le bon support. Je crois que je suis pas très inquiet pour lui en tant que joueur puis en tant que professionnel, vraiment.
Ben excellent, excellent, ça fait du bien entendre tout ça. Donc, dernière petite question, la Gold Cup, pardon, la Copa América, qui va la gagner selon toi?
J'ai pas le choix d'essayer de rester fidèle à mon pays. En tant que Canadien, j'espère de tout mon cœur que le Canada soit en mesure de l'emporter. On verra où ce que le chemin nous mènera. On a réussi à récolter les 3 points. Je crois que une autre bonne performance. Puis à la fin de la journée, dans ces tournois-là, tout est possible, vraiment. C'est juste une question de vraiment prendre match par match, puis de s'assurer de faire le maximum des 90 minutes que tu as sur le terrain pendant la Copa.
Oui, ben c'est ça, on l'a vu avec le contre l'Argentine. Le Canada a eu des occasions contre le champion du monde de marquer des buts et même de mener, je crois. Donc,
Exact, c'est sûr que dans ce match-là, il y a beaucoup de. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs sur l'équipe qui aimeraient ça avoir un deuxième tour à vraiment essayer de mettre les chances qu'ils ont eues dans le filet, mais vraiment juste être capable d'avoir ces chances-là contre une équipe qui est aussi dominante, les champions du monde eux-mêmes, en l'Argentine, je crois que ça montre vraiment le calibre du Canada, ça montre vraiment que c'est des tournois comme ça. C'est vraiment des tournois que tu ne peux pas prédire. C'est juste une question de jouer sur le terrain, vraiment.
Et docteur Siméon, professeur Siméon, qui gagne l'euro?
Je vais rester avec mes francophones puis voter pour la France.
La France.
Genre, je leur souhaite tout le succès. C'est une équipe que j'ai suivie longtemps, les Français. Alors, j'espère de tout cœur que la France continue sur leur excellente lancée récemment avec la Coupe du Monde et retourner en finale la Coupe du Monde suivante, vraiment, juste continuer sur l'élan puis être capable de gagner l'Euro. Je crois que ça serait un très bel accomplissement pour cette équipe-là.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais saluer avant la fin de cette entrevue?
C'est sûr, j'aimerais saluer, prendre le temps de saluer mes parents puis ma famille en tant que telle. Bien sûr, j'ai mentionné Moïse. Si jamais il prend le temps d'écouter, c'est toujours un plaisir de parler avec lui, de le voir une fois de temps en temps quand je rentre à la maison. Vermont Green qui m'a accueilli pour l'été, puis l'université de San Francisco, de Vermont puis San Francisco qui m'ont permis de grandir puis d'aller à l'école tout en continuant à jouer au soccer puis en suivant ma passion.
Parfait, ben voilà, c'est dit. Nathan Siméon, merci beaucoup de ton temps ici au terrain sportif et on te souhaite le meilleur pour la suite dans ta carrière de footballeur et sur le monde du travail également.
Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur et bonne journée.
Merci beaucoup, Nathan. C'était donc Nathan Siméon et on le remercie beaucoup pour son temps ici à CSM et à CFAQ, deux radios universitaires qui sont très importantes dans le monde des radios. Puis c'est important également de donner une tribune aux joueurs qui sont peu connus. Pas beaucoup de joueurs là, dont on entend parler qui jouent aux États-Unis, à part des joueurs de hockey, mais des joueurs de soccer, des gars de chez nous, là, de Montréal, du Québec, du Canada, qui jouent dans des petites équipes moins connues aux États-Unis. Puis c'est ça l'intérêt que j'ai à cette émission-là, c'est toujours de faire connaître ces personnes-là à notre auditoire. Donc voilà. Donc maintenant, pour terminer, on va parler un peu du CF Montréal. Le dernier match samedi dernier contre Vancouver Whitecaps à domicile avec un match nul de 1 buts à 1 avec un but de Mathias Coccaro et c'était Brian White qui avait ouvert le score à la 29e minute. Un bon match là, une bonne entrée de Mathias Coccaro contrairement au dernier match où est-ce qu'il avait été un peu inutile. Ce match-ci, il a été très utile, il s'est battu puis il n'a pas cherché nécessairement le carton jaune puis la faute puis se plaindre à l'arbitre. Il a joué, il a fait son travail puis a marqué un beau but. Ce qui fait en sorte qu'avec ce match nul de 1 à 1, eh bien, le CF Montréal est toujours pas dans les séries éliminatoires, mais n'est pas très loin. La place qui donne accès aux séries éliminatoires, au match de barrage, c'est la 9e place. Et à l'heure actuelle, c'est Toronto qui l'a avec 24 points en 23 matchs joués. Et le CF Montréal a 23 points en 22 matchs joués, donc un match de moins que Toronto. Donc, c'est quand même accessible là, pour le 11 Montréalais de faire les séries éliminatoires, mais il reste beaucoup de soccer à jouer. On est à 22 matchs seulement là, et donc il en reste environ une quinzaine. Et pour le CF Montréal, ça va être important d'aller chercher le plus de points possible. Puis on se rappelle qu'il va y avoir aussi une pause pour la Leagues Cup au mois d'août environ, là, fin juillet, puis une partie du mois d'août. Donc, ça va donner une opportunité pour le CF Montréal de peut-être aller compétitionner pour un autre trophée, la Leagues Cup, avec notamment Orlando et San Luis qui seront les deux autres équipes que le CF Montréal va affronter. Prochain match, eh bien, c'est à domicile, c'est le 13 juillet contre Atlanta United. Donc samedi qui s'en vient. Mercredi le 17, le CF se déplace du côté des Red Bulls. Et le 20 juillet, eh bien, c'est contre Toronto FC à 7h30. Vous ne voulez pas manquer le derby canadien entre Montréal et Toronto. Ça va être un très bon match. Et après ça, le prochain match à domicile en MLS, eh bien, ça sera le 24 août contre la Nouvelle-Angleterre. Il y aura également un match là, contre San Luis Potosi le 30 juillet à 7h PM. Donc, entre le 30 août et le 23 août, là, il n'y aura pas de match de soccer au stade Saputo pour le CF Montréal, à moins que le CF Montréal se qualifie en Leagues Cup pour les prochains tours. Et puis, on reçoit là, une équipe mexicaine qui est San Luis Potosi. Puis, honnêtement, quand vous regardez les équipes mexicaines, je ne sais pas si j'ai dit américaine, là, mais c'est mexicaine, San Luis Potosi. Quand on regarde les équipes mexicaines de San Luis Potosi, dans la Ligue mexicaine, on peut s'apercevoir que San Luis Potosi, c'est probablement une des moins attirantes qu'on pouvait espérer recevoir. Puis malheureusement, bon, ça tombe sur San Luis Potosi. On aurait pu avoir Pumas, Cruz Azul, América, Chivas, Tigres, Rayados, Puebla, Pachuca, León, Atlas, toutes ces équipes-là sont des grandes équipes mexicaines. Et San Luis Potosí, là, c'est peut-être une des équipes les moins attirantes, du moins sur papier et historiquement, pour un déplacement au CF Montréal au Québec. L'année dernière, on avait reçu Pumas, là, puis ça a été probablement une des meilleures ambiances que j'ai vues depuis que je suis le CF Montréal en tant que média attitré. Pardon. Quelques notes de match. C'était le 10e match consécutif à guichet fermé. Ça égale le record du club établi en 2016. Le but égalisateur de Cocaro était son 4e cette saison. Il s'agit aussi du 9e but marqué par un substitut, établissant un nouveau record pour le club en MLS. Et le CF Montréal enchaîne un 6e match de suite sans connaître la défaite à la maison. L'équipe est à un match d'égaliser le record de club établi en 2012 et atteint à nouveau évidemment en 2013 et en 2021. Petit classement là, dans l'Est, 1er Cincinnati, 2e Miami, 3e Columbus, 4e Red Bull, 5e New York City, 6e Charlotte, 7e Orlando, 8e Nashville, 9e Toronto, Atlanta 10, Montréal 11, Nouvelle-Angleterre 12, Chicago 13, 14 Philadelphie et 15 DC United. Et dans la conférence de l'Ouest, eh bien c'est Los Angeles FC 1er, 2e Real Salt Lake, 3e LA Galaxy, 4e Colorado, 5e Portland, 6e Vancouver, 7e Seattle, 8e Houston, 9e Austin, 10e Minnesota, 11e FC Dallas, 12e Saint Louis, 13e Sporting City et 14e avec 14 points seulement San Jose, qui est de loin la pire équipe de la ligue avec tout simplement là, 56 buts accordés en 22 matchs, ce qui est une catastrophe. Il n'y a aucune équipe qui a accordé plus de 50 buts là, dans toute la ligue, sauf nos amis de San Jose Earthquakes. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette émission du Terrain Sportif. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissem Bensta au micro. Et on se revoit la semaine prochaine, lundi, 10h30 midi sur les ondes de CSM. Et lundi soir, 20h, 21h30 sur les ondes de CFAC. Merci et bougez pas sur les ondes de CSM et de CFAC. Au revoir.